Et maintenant, retrouvons la chronique de Rony Akrish sur Radio Futée.
Nos chers auditeurs de Radio Futée, Shalom, Rony Akrish depuis Hebron. Nous allons parler aujourd'hui du prophète Amos. Amos fait partie de l'Haftara, de ce Shabbat Vayeshev, mais il est bon, bien entendu, comme vous le savez, d'entreprendre et de mieux comprendre le texte biblique. Amos est donc un de ces premiers prophètes scripturaires qui va apparaître en pleine période d'euphorie, alors que la puissance israélite atteint son paroxysme. Puissance israélite, puisqu'il y a deux royaumes à ce moment-là, le royaume de Judée au sud et le royaume d'Israël au nord. Il va annoncer à Bethel deux catastrophes imminentes, un tremblement de terre et la chute de la dynastie des Jéhuides. Il lance des menaces aussi contre Yehuda, et deux années plus tard, éclate le tremblement de terre. Le même jour, la lèpre va frapper le roi Ouzia, qui est roi de Judée. Voici que ces confirmations rapides donnent à la prophétie d'Amos un caractère éminemment sérieux et qui va ébranler tout un chacun. L'hypothèque de confiance et d'assurance est levée. Le testament d'Élie avait amorcé la disparition des hommes rides. La prophétie d'Amos, elle, hâte celle des Jéhuides. Le prophète Amos ne réside pas dans cette réalisation rapide de ce qu'il annonce. Elle tient dans l'audace avec laquelle Amos ose contredire toutes les vérités premières dont se targuaient les Hébreux à cette époque, dans la fougue avec laquelle Amos rappelle et restaure les notions traditionnelles de la Torah bafouée, l'alliance et la justice. Les 9 chapitres qui composent le livre d'Amos donnent un aperçu de la richesse et de la densité de la pensée d'Amos, mais aussi de l'originalité de sa vie. Car à côté du texte des prophéties, la Bible, Tanakh, va nous livrer quelques éléments précieux de la biographie du prophète. Amos est un berger qui garde les troupeaux dans les pâturages de Tkoa, petite ville judéenne assez proche de Hebron. C'est une région d'ailleurs riche en sycomores et Amos s'occupe parfois de l'entretien de ces arbres dont les fruits exigent d'être fendus à la main pour venir à maturité. Mais un jour, Dieu l'appelle ou l'interpelle et l'oblige à se mettre en route. Il lui envoie d'abord des visions qui épouvantent Amos parce qu'elles font entrevoir la sécheresse, la disette, le deuil des campagnes, le tragique écroulement du royaume du nord et la catastrophe du royaume du sud. Dieu a besoin de lui et l'humble berger de Tkoa, pour parler aux hommes, va se lever et se mettre en route. Il y a là, bien sûr, une expérience qui est éminemment mystique. Amos ne connaît d'autre maître que Dieu. C'est lui qui l'inspire, c'est à lui qu'il doit des comptes. Une des scènes absolument extraordinaires que vous retrouverez au chapitre 7, que nous appelons la scène de Bethel, est la plus remarquable dans la vie d'Amos et met en très vive lumière cet aspect innovateur du prophète. Amasia, qui est Cohen à ce moment-là dans le royaume d'Israël, du mini-temple, si vous le voulez de cette manière, ce Amasia représente l'esprit religieux hébraïque sous sa forme jéhuide, et donc un peu, si ce n'est beaucoup, déviationniste de ce qui se passe à Jérusalem. Le maître d'Amasia, c'est le roi. Les intérêts de son temple, ce sont les intérêts de l'État. Les prophètes sont à ses yeux des fonctionnaires religieux de l'État comme il est ou comme il en est de lui-même. Dans le prophète de Tkoa, c'est-à-dire d'Amos, ville de Yehuda, ne l'oublions pas, Amasia ne veut et ne peut voir qu'un de ses pans judéens payés par le roi Ouzia pour semer la panique dans le nord et aider à la réalisation des ambitions politiques de Yehuda. En opposition radicale à cette mentalité, Amos va se présenter comme l'incarnation de l'authentique tradition hébraïque. Son maître, c'est l'Éternel. C'est à lui seul qu'il doit obéissance. Il est son organe et ne dit rien que Dieu ne lui ait inspiré. Cette humilité dans la vocation, ce sentiment d'éprouver la prophétie comme un poids contraignant, cette indépendance à l'égard de tout ce qui est humain pour ne reconnaître que l'autorité divine. Eh bien, tout cela, vous le comprenez, caractérise les prophètes de la trempe d'Amos et leur donne le courage d'affronter toutes les difficultés, tous les affronts, toutes les souffrances, et s'il le faut, d'aller même jusqu'à la mort. On comprend qu'une prophétie énoncée, avec tant de sérieux, devait paraître bouleversante. Le discours d'Amos Les discours, disons-le au pluriel, ont en effet une portée profonde. Sur le plan politique, il est bon d'indiquer qu'Amos mène la lutte contre le jéhuisme, c'est-à-dire la royauté du royaume d'Israël. Nous avions précédemment constaté l'absence d'un mouvement de résistance contre cette royauté jéhuide. Eh bien, Amos va inaugurer ce mouvement. Il va dénoncer sans ambages ses faiblesses, ses hypocrisies et, bien sûr, ses syncrèses, c'est-à-dire ces mélanges de croyances étrangères. Il condamne également l'orgueil, bien sûr, l'orgueil de Jéroboam et de ses gens, la désinvolture avec laquelle il méprise le divin et le sacré. Il reproche enfin à Ouzia, roi de Yehuda, de rompre le lien religieux et éthique avec la Torah au profit d'une sorte de pan-judaïsme purement nationaliste. Après une longue période de silence, toutes les tendances authentiquement fidèles au message de la Torah trouveront un porte-parole vigoureux en Amos. Sur le plan social, bien sûr, Amos retrouve les accents d'un Nathan, d'un Élie, lorsqu'ils font le procès de la criminelle injustice, soit de David, soit d'Achav, mais une tonalité nouvelle surgit avec le prophète Amos, véritable initiateur du prophétisme social. Avant lui, en effet, la critique prophétique s'exerçait à l'occasion d'un événement individuel et limité, le meurtre d'Uri, le général de David, ou bien l'assassinat de Naboth par le roi Achav. Avec Amos, c'est toute une société qui est mise en cause. Le réquisitoire d'Amos est collectif. Il concerne en bloc la société hébraïque du 8e siècle. Et il faut se représenter ici le prophète, dans les rues de Samarie, ou de Jérusalem, de Bethel ou de Gilgal, accusant les ploutocrates de vivre dans le luxe, dans la jouissance, pendant que les pauvres crèvent ou sont vendus à l'étal. Morigénant les femmes aux passions inassouvies, il gronde les militaires à l'orgueil présomptueux et raille les sages qui se taisent prudemment. Aucun élément de la société n'est ici épargné. L'accusation portée par Amos concerne une société globalement responsable. Sur le plan religieux, enfin, c'est de la part d'Amos la réprobation totale de la syncrèse pratiquée à Bethel, du ritualisme formaliste qui sévit en Juda. Comment des hommes qui n'hésitent pas à pressurer les pauvres et les exploiter osent-ils se présenter au temple les bras chargés de sacrifices? Voilà un discours remarquable qui stigmatise les commerçants judéens qui observent scrupuleusement le Shabbat et le Rosh Chodesh, la Néoménie, mais attendent avec impatience la fin de ces jours, de ces solennités, pour reprendre leur trafic frauduleux. Le réquisitoire d'Amos aboutit sur tous ses plans à la condamnation sévère d'une société pourrie. Les tableaux catastrophiques abondent dans les discours d'Amos. Tantôt ce sont des cataclysmes naturels, famine, séisme, sauterelles. Tantôt des bouleversements politiques, ennemis surgissant à l'improviste, sièges et ruines des capitales, déportation des Israélites et des Judéens. L'évocation du jugement a parfois quelque chose d'hallucinant. Comme un homme qui fuit devant Lyon, se trouve soudain en face d'un ours et voulant se réfugier dans une maison, appuie sa main contre le mur, ou loge un serpent qui le pique à mort. Ainsi, cela veut dire que personne ne pourra échapper au destin fatal. Il ne faudrait pas croire, bien sûr, cependant, que le message d'Amos soit uniquement pessimiste et désespéré. L'annonce de malheur n'est pas définitive. Dieu peut révoquer son jugement, il faut pour cela qu'Israël se repente. C'est la grande notion de choix, celle que le livre de Dvarim, le Deutéronome, et Élie avaient formulé déjà, qu'Amos va réintroduire dans la vie spirituelle des Hébreux. Une magnifique séquence au chapitre 4 rappelle qu'Israël est libre de refuser ou d'accepter, libre donc de choisir son destin malheureux ou heureux. Jusqu'ici, Dieu est intervenu sous différentes formes pour rappeler Israël à ses responsabilités. Mais les Israélites sont restés sourds à la leçon de ces messages divins, que sont les catastrophes naturelles ou les guerres. Maintenant, Dieu va apparaître en personne, qu'Israël s'apprête à le rencontrer, osera-t-il encore dans un nouveau face-à-face rappelant celui du Sinaï, nier l'évidence et s'obstiner à faire le mal. Ainsi, c'est une nouvelle révélation immédiate de Dieu qu'Amos fait entrevoir. Le dialogue entre Dieu et Israël, interrompu depuis le Sinaï, puisque Dieu ne s'adressait plus qu'à des individus prophétiquement élus, eh bien là, il va reprendre contact. Israël est appelé par Amos à redevenir, à titre collectif, au nom de la nation et du peuple d'Israël, le partenaire de l'Éternel. Vous entendez à travers ce récit et ces mots, bien entendu, non seulement les leçons du passé, mais combien les relents et les occurrences de ce que nous venons de raconter, eh bien, peut avoir de contemporain, concernant le social, l'économique, les pouvoirs politiques, aujourd'hui encore. J'espère la semaine prochaine que nous continuerons avec Amos et d'autres, eh bien, à essayer de découvrir ce merveilleux message que le Tanakh, la Bible, nous envoie à nous, les Hébreux, qui en sommes les dépositaires. Et vous le savez comme moi, ce livre est le plus publié, le plus édité. Il traverse les temps et les âges. Il est traduit dans plus de 1000 langues et dialectes, édité à des centaines et des centaines de millions d'exemplaires depuis la nuit des temps. Eh bien voilà, si nous en sommes les dépositaires, il faut que nous en soyons les messagers. Shabbat shalom, Léitraot, à la semaine prochaine.
C'était la chronique de Roni Akrish sur Radio Futé.